France Inter.
Retour sur la terrasse du Palazzo Migliori à Rome, au Vatican, avec une presque vue sur la cheminée de la chapelle Sixtine. Je ne vous cache rien, mais j'ai un moniteur à côté qui me la montre parce que la première fumée noire est probablement incessante. Je l'ai vu en tout cas sur la place Saint-Pierre, qui s'est extrêmement remplie par rapport à cette première heure, remplie à la fois de fidèles mais aussi de curieux pour voir l'issue que l'on connaît bien sûr, mais l'issue de ce premier vote et ce moment particulier. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, il est 19h22.
France Inter, le 18-20 spécial conclave en direct du Vatican, Fabienne Saintès.
Et en attendant donc cette première fumée, 99,9% de chance noire. Vous aurez remarqué qu'en première heure, nous avons fait de notre mieux pour ne pas nous risquer à faire des paris sur les noms des papabili qui vont se retrouver demain encore à deux pas d'ici, donc dans la chapelle Sixtine. Et pourtant, vous le savez, des noms qui circulent, il y en a beaucoup. Nous irons sur ce terrain-là, si vous le souhaitez. Elle est à vous, cette deuxième heure, l'hypothèse d'un pape français, la place des Italiens, celle du Sud global après François, celle de l'Afrique aussi. Nous allons aussi peut-être surtout tenter de comprendre à quoi ça sert un pape aujourd'hui, même pour vous qui n'êtes pas croyant, si autant de pays, voire certains vice-présidents, regardez J.D. Vance, essayent d'influencer le message du pape, c'est qu'il représente peut-être encore quelque chose, une valeur morale peut-être, sur certains sujets, moins sur d'autres, vous allez nous le dire. Le pape est aussi un diplomate, le Vatican n'a pas de division, mais il a des ambassadeurs. Pour quelle diplomatie? Est-ce que son sujet ce sont les catholiques? Est-ce que son sujet c'est l'humanité? L'homme qui sort sur le balcon de la place Saint-Pierre dans 1, 2, 3 jours. Peut-être a-t-il encore la voix qui porte en 2025. C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, le premier, c'est vous, Patrice. Vous êtes le bienvenu au Vatican. Bonsoir, Patrice.
Oui, bonsoir à tous et à toutes.
On vous écoute, allez-y.
Le pape François a été présenté comme un réformateur. Il a choisi des prêtres africains pour ordination de cardinaux. Mais à contrario, on considère que ce sont les prêtres africains et asiatiques qui sont les plus conservateurs. Là, je pense qu'il y a peut-être une contradiction. Et je dois dire, ils en avaient parlé, que même en étant athée, on ne peut que se féliciter d'un pape qui exhorte les dirigeants du monde entier à s'occuper des migrants, de la misère humaine. Par contre, lorsqu'il vilipende l'avortement, ça peut peser sur certaines prises de décision dans des pays conservateurs. Et on peut craindre malheureusement que si c'est une fumée blanche conservatrice qui sort de la cheminée, bah, ce seront encore les femmes qui se feront enfumer et ce sera encore fort regrettable.
Merci beaucoup pour votre question, Patrice. Je retiens les femmes qui se font enfumer alors qu'on attend une fumée blanche. Il fallait que quelqu'un la fasse et c'est Patrice qui l'a faite. Merci beaucoup pour discuter avec nous jusqu'à 20h ici avec cette vue magnifique sur la place Saint-Pierre. Louvre et Mont-de-Seine-Ville est resté avec nous. Bonsoir, rebonsoir. Vous êtes toujours rédacteur en chef adjoint à La Croix. Vous étiez correspondant au Vatican entre 2020 et 2024. Et votre livre qui s'appelle Vatican secret sort cette semaine chez Stock. Antoine-Marie Zoar est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, merci beaucoup d'être avec nous. Bruno Duvic, notre correspondant à Rome, et lui sur la place Saint-Pierre. Bruno, je vous salue une nouvelle fois et on attendra, on reviendra vers vous dès lors qu'on verra sortir la première fumée de cette cheminée du Vatican. Antoine-Marie Zoar, ce qu'il nous dit, Patrice, c'est est-ce qu'il s'est tiré une balle dans le pied, le pape François, en faisant rentrer certains cardinaux du Sud. Ils pensent notamment à ceux de l'Afrique. Donc, alors, ils n'ont pas toujours été nommés par François, ceux-là. Hein. Celui du Ghana, celui de Kinshasa, par exemple.
Pas forcément, mais j'ai pour vos auditeurs un scoop ce soir. En fait, le pape est catholique. Et donc, forcément, il suit... Non, mais je sais, mais ça peut être déceptif, mais le pape suit l'enseignement de l'Église catholique, bimillénaire, évidemment, qui évolue avec son temps. Certains diront, d'aucuns diront trop lentement. Église, Ecclesia Semper Reformanda, on dit toujours que l'Église quand même se réforme. Et de fait, en 2000 ans, il s'en est passé des choses dans cette Sainte Église, et des choses belles, et des choses... une Église qui s'est adaptée au monde, peut-être pas aussi vite que le monde, mais je pense que c'est aussi à contre-courant parfois des idées du monde, et que forcément, eh bien, quand le pape parle de la vie, du couple, de la famille, du rapport entre l'homme et la femme, alors il peut être classé comme un conservateur. Finalement, il suit peu ou prou quand même la ligne de Jésus-Christ, du fondateur et de l'Évangile. Et quand il parle des migrants, des pauvres, ce sur quoi il a beaucoup et très justement insisté, des plus vulnérables, des petits, des pauvres, eh bien là, effectivement, il peut être classé comme un progressiste. Mais écoutez, même François, en 12 ans de pontificat, n'a pas ouvert à des réformes radicales. Il a changé d'un point de vue pastoral. Alors j'entends bien que ce mot est un peu de la langue de buis, c'est-à-dire c'est la langue de buis, c'est, pour expliquer à vos auditeurs, c'est la langue de bois de l'Église. la langue de buis, c'est... Bon, voilà. Donc il a été dans la pastorale, c'est-à-dire dans l'approche des plus pauvres, des plus marginaux, de ceux qui sont plus loin de l'Église. Ça ne veut pas dire forcément que l'enseignement de l'Église catholique bouge aussi vite.
Je posais une question en introduction, Lou Bémond de Senneville, et au fond, elle nous poursuit cette question. Elle nous poursuit d'ailleurs depuis plusieurs papes, et elle fait écho à ce que nous dit Patrice. Est-ce que le sujet du pape, ce sont les catholiques et uniquement les catholiques? Est-ce que le sujet du pape, c'est l'humanité? Et comment est-ce qu'il navigue là-dedans? Comment est-ce qu'un pape navigue là-dedans? Et est-ce que c'est pas aussi l'un des enjeux de celui qu'on attend ici, savoir comment on navigue entre ces deux mondes?
Le sujet du pape, c'est les deux, effectivement. C'est à la fois les catholiques et à la fois ce qu'il appelle les hommes de bonne volonté. Alors, vous savez, les papes, depuis plusieurs papes, ils adressent leurs grands textes, leurs encycliques à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Et donc effectivement, il a une prétention de s'adresser plus largement qu'aux fidèles catholiques. Ça se voit dans ses actes quotidiens et ça se voit aussi dans la diplomatie. Le Saint-Siège, c'est un État qui a un tout petit territoire, qui n'a pas vraiment de citoyens à défendre, mais qui défend le bien commun. Voilà, qui n'a pas d'entreprise à défendre, qui n'a pas de territoire à défendre. Et donc voilà, on voit là le décalage. Effectivement, en même temps, c'est le chef d'une institution religieuse, à la tête d'un 1,4 milliard de catholiques, et en même temps, il a une prétention universelle.
Mais est-ce qu'il doit faire l'effort de parler aux non-croyants, ou est-ce que ça c'est un truc de non-croyant, en fait, d'imaginer qu'il y a aussi une parole du pape qui doit être à destination des non-croyants, et que sa voix doit porter bien au-delà de son monde?
De fait, il parle aux non-croyants, c'est-à-dire que, et dans les messages qu'ils adressent, et depuis le Concile Vatican II, clairement, les papes s'adressent plus largement qu'aux seuls catholiques. On le voit, alors il y a des choses institutionnalisées, notamment le dialogue interreligieux, où il parle aux musulmans, il y a aussi un dialogue avec les juifs, avec les bouddhistes, etc. Mais il parle aussi, je vous disais, aux hommes de bonne volonté. Donc, on est sur un message qui est beaucoup plus large qu'aux seuls catholiques.
Est-ce que c'est pas ça un peu la confusion, au fond, Antoine-Marie Zohar? Évidemment que les non-croyants, mais qui ont bien conscience que c'est effectivement, comme le disait Lou Bémond de Senneville, un diplomate, quelqu'un dans la voie porte, mais au fond, il y a confusion sur le message qu'on attend du pape, en fait.
C'est quelqu'un qu'on écoute beaucoup, le pape, mais qu'on n'entend pas forcément. Mais on s'étonne parfois que le pape puisse recevoir Greta Thunberg et Gilles Evans. Gilles Evans, on l'a vu, ça a été une scène, je dirais, assez étonnante et surprenante, historique, parce qu'à la veille même de son décès, mais c'est le pragmatisme aussi du Saint-Siège, qui est à la fois, le pape est à la fois le chef d'1,4 milliard de catholiques, mais aussi le chef de ce petit État dont parlait Lou Bémond de Senneville à l'instant, qui a des relations avec le monde entier, avec les chefs d'État. Et honnêtement, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est la tension permanente entre l'enseignement de l'Église, bimillénaire, qui évolue, et l'ouverture au monde souhaitée par l'Église, puisque l'Église, depuis le Concile Vatican II, on l'a dit, est auprès des peuples, des joies, des espérances. C'est vraiment ce que disait le Concile Vatican II, des joies, des espérances, des souffrances, des douleurs du monde entier. Effectivement, pas que des catholiques.
Mais est-ce que vous dites, vous, que le pape au XXIe siècle, il a encore une puissance? Est-ce qu'il a un sentiment de puissance? Est-ce que c'est ça le mot qu'il faut employer? Qu'est-ce qu'il faudrait employer comme mot, à votre avis?
Je ne parlerai pas de puissance, je parlerai, à l'heure des réseaux sociaux, d'influence tout de même, quand même, et de présence au monde. Mais ce n'est pas le pape seul. Le pape seul n'est rien. Le pape, combien de divisions? C'est le pape avec des évêques, des cardinaux, mais surtout des fidèles. Et des fidèles, effectivement, qui, de Nairobi à Paris, de Washington à Ouagadougou, ne sont pas les mêmes, mais qui ont finalement tous une attente, c'est qu'il y a un message universel du pape. On l'a vu pour certains sujets dont on parlera peut-être dans cette heure de débat, mais qui est la question, par exemple, de l'ouverture et de la bénédiction pour des couples de personnes de même sexe, des couples homosexuels, où là, cette tentative qu'a fait le pape d'ouverture pastorale, encore ce mot peut-être un peu complexe à comprendre, mais de cette ouverture, eh bien, a divisé l'Église. Parce que des cardinaux du Sud en particulier ont dit « mais chez nous, c'est pas possible ». Et d'autres ont dit « mais enfin !» Voilà, donc vous voyez, il y a cette difficulté, cette tension permanente, mais cette nécessité d'une ouverture. D'ailleurs, c'est ce qui nous dit que l'homme qui sortira de la chapelle Sixtine, alors probablement pas ce soir, mais demain ou après-demain, il devra de toute façon tenir cette tension permanente, mais il devra maintenir d'une certaine façon, peut-être avec un pontificat un peu moins autoritaire et un peu moins ferme que l'a été François, mais cette ouverture au monde qu'a eu François et qu'a souhaité le pape François, forcément.
Éric est avec nous. Bonsoir Éric.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Voilà, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Ouais, j'ai une petite réflexion. Moi, je ne suis pas du tout croyant. Par contre, je considère que ce qui se passe aujourd'hui au Vatican est une importance capitale pour le monde entier, parce que le pape a, comme vous venez de le dire, énormément de fidèles. Je crois que c'est 1,4 milliard, hein, je ne suis pas sûr. Et donc, croyant ou pas croyant, ce qui se passe aujourd'hui est éminemment politique. Les raisons que vous venez d'évoquer, l'homosexualité, la place des femmes. Et donc je pense que, croyant ou pas croyant, tout le monde devrait s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui au Vatican. Paix à l'âme de François, qui, bien que je ne sois pas croyant, je le respectais beaucoup. Voilà.
Merci Eric pour votre remarque. On l'a évoqué tout à l'heure en première heure, le pape politique, pas politique, on va y revenir. Je vous ai présenté un troisième invité qui s'est assis autour de la table, Giovanni Maria Vianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, directeur de l'Osservatore Romano, journal du...
Émérite.
Émérite, c'est vrai. Absolument, vous l'étiez entre 2007 et 2018, pour dire les choses clairement. Votre dernier livre s'appelle Le Dernier Pape aux éditions du CERF. Il y a du monde sur cette place, c'est aussi la raison pour laquelle il a fallu un petit peu ramper.
Exactement.
Pour arriver jusqu'à chez nous. On est content que vous ayez pu y parvenir. Je vous laisse souffler une seconde. Est-ce que, Antoine-Marie Izoard, le pape politique, est-ce que vous le rangez dans la catégorie... Après tout, on le range dans la catégorie des diplomates. Pourquoi est-ce qu'on ne le rangerait pas dans la catégorie homme politique, ce pape ?
Il y a quelque chose de politique, effectivement, dans l'action de l'Église à travers le monde, dans ce qu'on a appelé tout à l'heure la recherche du bien commun. Mais et je rejoins ce que vient de dire votre auditeur, que je trouve extrêmement intéressant, surtout de la parole de quelqu'un qui se dit non-croyant, de dire que dans un monde fracturé comme aujourd'hui, quand la parole finalement est assez dévalorisée, eh bien, la parole du pape, une fois de plus, elle est entendue. Est-ce qu'elle est réellement appliquée ? Mais elle est entendue et elle est attendue. Alors effectivement, tout le monde ne la suit pas de la même façon, mais cette parole, elle reste forte. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous êtes venus avec vos micros de Radio France, de France Inter. Les médias ici, Place Saint-Pierre, sont extrêmement nombreux. Aujourd'hui, ils l'étaient déjà au moment des funérailles de François. C'est la preuve que, malgré tout, ils sont attachés à cette parole du pape et aussi au mystère que représente ce conclave et le fait qu'on attende au bout d'un tuyau de cuivre et de sur le toit.
Assez moche
sur le toit,
soi,
assez relativement moche. Ouais. Mais à l'heure des réseaux sociaux, une fois de plus, à l'heure des médias, à l'heure d'Internet, savoir que le monde est pendu au résultat d'une fumée dans un poêle, c'est quand même juste incroyable.
Le pape entendu ou peut-être attendu, Giovanni Maria Vianne, on y revient rapidement. Moi, j'ai été frappée quand même par la scène dont parlait Antoine-Marie Izoard avec J.D. Vance. C'était la veille ou l'avant-veille de la mort de François. J'ai été frappée parce que le message que J.D. Vance envoie, c'est au pape, vous vous trompez de message, il faut pas regarder, il faut moins regarder le monde, mais mieux regarder la famille, enfin. Donc le fait qu'un vice-président quand même d'une grande puissance vienne dire ça au pape, est-ce qu'au fond, ça ne parle pas pour l'influence du pape, justement ? Est-ce que ça ne dit pas qu'il en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer ?
Je pense qu'il y a beaucoup de mythologie là-dessus. C'est depuis le XVIIe siècle que la papauté romaine n'a plus d'influence politique. Et c'était la paix de Westphalie qui l'a...
Allez, l'historien vient de toucher notre enthousiasme.
Gentiment, voilà. Gentiment mis de côté, au point que un pamphlet philo-français, justement, a sorti une phrase. Les papes de Rome, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Lui reste seulement des doigts pour bénir.
Alors, vous allez faire plaisir à certains de nos auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que ça veut dire que ça sert à rien, un pape aujourd'hui ?
Non, ça sert à beaucoup. C'est l'unique autorité morale qui reste, mais morale. En plus, je ne sais pas si, sur quelle base vous...
Ah, il y a quand même une autorité morale, donc, selon vous.
Ah si, sans doute. Ah. Mais sur quelle base vous dites que Vince lui a dit... C'était seulement une rencontre de courtoisie, et c'est la symbolique, c'est très forte. Mmh. Parce que, c'est l'empereur. Mmh. Ce n'était pas l'empereur, mais son dauphin, parce qu'il sera élu probablement dans 4 ans.
Mmh, ah ben...
Et on ne sait pas, mais si les choses marchent comme maintenant. Et il s'est rendu à le voir. En plus, l'empereur lui-même est venu à Saint-Pierre pour
les funérailles.
Pour les funérailles. Et il a profité pour se rencontrer avec le président ukrainien.
C'est vrai.
Et donc, ça là, veut dire que... le président français...
Ce que ça veut dire, c'est
entré et avec le premier ministre britannique, c'était une image extraordinaire. C'était comme les quatre tétrarques.
On s'en souvient de cette image-là, mais ce que ça dit peut-être, Lou Bémont de cette ville, et vous allez me dire si je me trompe, le Vatican est toujours diplomatique, l'endroit est toujours un endroit diplomatique, ces 44 hectares-là a encore du sens, donc ça n'est pas forcément la figure du pape, c'est le lieu en fait qui génère encore ce genre de choses, et donc peut-être dénouer certaines crises.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le Vatican, c'est quand même un lieu de passage des dirigeants,
dirigeants
du monde entier.
On est d'accord.
Qu'ils soient, du monde entier, voilà, qu'ils soient catholiques, pas catholiques, qu'ils viennent d'Iran, des États-Unis, du Birmanie, ça, c'est quand même extraordinaire. Et moi, j'ai vu ici, en étant correspondant à Rome pendant 4 ans, le défilé incessant de ces chefs d'État et de gouvernement, de ces rois, de ces reines, de ces princes et de ces princesses, qui venaient chercher quelque chose auprès du pape. Ils ne venaient pas tous chercher la même chose. Ils venaient parfois chercher des choses pour leur propre opinion publique, mais ils venaient toujours chercher quelque chose. Et puis le deuxième point, c'est que le palais apostolique, qui est là en face de nous, pas très loin de la chapelle Sixtine, c'est le lieu central de la diplomatie vaticane, c'est un peu leur Quai d'Orsay, si vous voulez, et c'est un lieu d'information, c'est un lieu où on dispose de beaucoup, beaucoup d'informations, parce que le Saint-Siège a encore quand même un gros réseau d'informations, d'informateurs à travers le monde, à travers les communautés religieuses qui font remonter un certain nombre de choses à Rome. C'est pour ça qu'il y a autant de diplomates étrangers ici auprès du Saint-Siège.
Mais vous dites qu'ils vont tous chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont chercher ?
Oh, ils vont tous chercher quelque chose. Ils vont soit chercher... Alors, c'est très différent. Ils peuvent aller chercher des choses très personnelles. Ils peuvent aller chercher de la communication, un soutien. Clairement, on l'a vu avec Emmanuel Macron. Je veux dire, il y avait aussi une part de com' de s'afficher auprès du pape François. Ils peuvent aussi aller chercher un signe d'apaisement vis-à-vis de leur pays. Ils peuvent aussi aller chercher une médiation. Je connais un ambassadeur d'un pays en guerre qui allait voir François en lui disant, voilà, vous êtes catholique, Biden est catholique, parlez à Biden, vous aurez une influence sur lui pour régler le problème dans mon pays. Donc vous voyez, ils y vont avec différentes choses.
Et ça marche ou pas, Antoine-Marie Izoard, le pape médiateur, ça marche ?
Ça marche, ça a marché par le passé. On ne peut pas dire que le pontificat de François, de ce point de vue-là, ait été couronné de beaucoup de succès. Il y a eu quelques médiations, mais il a tenté, par exemple, difficilement au moment de du lancement de la guerre en Ukraine, de se proposer comme médiateur. Il a refusé de choisir un camp. Le problème du pape, dans ces cas-là, et l'Ukraine et la Russie en particulier, c'est qu'il y a des catholiques des deux côtés, avec des particularités. Les uniates d'un côté, des catholiques beaucoup plus radicaux, éventuellement en Russie, mais un tout petit troupeau de catholiques qu'il fallait quand même... préservé d'une certaine façon. Donc c'est là que parfois les positions de François ont été difficiles, parfois un peu maladroites, parfois récupérées d'ailleurs, il ramait derrière par le cardinal Parolin, dont on parle beaucoup parce qu'on l'a en particulier beaucoup vu.
Qui était son numéro 2.
Qui était le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, le ministre, le Premier ministre surtout du
Saint-Siège. Qui est très haut dans la liste des papabilistes, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui.
C'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'il a été attaqué de toutes parts. Mais voilà, mais c'est vrai que comme on vient de le dire à l'instant, beaucoup venaient chercher la photo pour pouvoir aussi se prendre pas mal de crédibilité et s'apporter, je dirais, la bénédiction d'une certaine façon du pape François. C'est pour ça d'ailleurs que le pape, et depuis tout temps, le pape évite forcément de se rendre dans certains pays en période électorale, parce qu'il sait qu'il peut faire bouger la donne, ou en tout cas être appelé à se prononcer sur des sujets pour lesquels il n'a pas envie de se prononcer et de faire peser la balance.
Et en même temps, Giovanni Maria Vianne, monsieur l'historien, avant de retourner au standard, moi je trouve ça intéressant ce pape François qui ne choisit pas de camp, et on le lui reproche effectivement s'agissant de l'Ukraine et de la Russie. Il y a finalement pas si longtemps que ça, un autre pape qui était Jean-Paul II a choisi un camp, et c'est même ce qui a fait de lui le pape dont on se souvient aujourd'hui.
Alors, j'ajoute une petite remarque sur les médiations. L'unique médiation qui a réussi au Saint-Siège pendant les pontificats de François, c'était entre Cuba et les États-Unis.
C'est vrai.
Mais pourquoi ? Parce que on avait réussi à impliquer, à concerner les deux épiscopats. C'est pour ça, pas pour la diplomatie, qui d'ailleurs c'est une diplomatie pas mal, effectivement. Mais absolument, c'est fondamental.
Mais on est avant.
Avoir concerné les épiscopats.
On a concerné les épiscopats, mais on est avant Trump 1, je parle sous votre contrôle, Antoine-Marie Zohar.
Donc on est juste avant,
c'est très tôt dans le pontificat, donc on est avant Trump 1.
Lorsqu'on s'est rendu de façon assez inattendue, ou presque inattendue, à Cuba, avant de se rendre vers le Mexique.
Voilà.
Le Mexique.
Mais ce que ça veut dire, c'est que la même chose aujourd'hui, sous un autre président qui a changé beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui, y compris le rapport de force, on ne dirait peut-être pas la même chose.
Mais vous savez, j'ai entendu beaucoup de médias, ou pas que d'ailleurs, de s'étonner au moment des obsèques de François, de voir Donald Trump là. Alors depuis, il aura fait un coup pendable avec cette fameuse photo sur les réseaux sociaux, mais de lui déguisé en pape avec l'intelligence artificielle, mais enfin bref, donc ça montre un peu le personnage, mais qu'importe. J'ai été surpris de cette surprise à sens unique, au risque de choquer, mais un de vos auditeurs l'a dit tout à l'heure, les paroles du pape sur la question de l'avortement, les questions du rapport homme-femme ont parfois été dures, parfois même blessantes sur la question de l'avortement, et ça faisait pas forcément de lui le meilleur ami, d'une certaine façon, de la politique d'un président comme le nôtre, en France, quand il y a la constitution de l'avortement ou la question du mariage homosexuel et ainsi de suite. Donc forcément, le pape ne plaît pas à tout le monde et tout l'enseignement catholique, d'où l'enseignement de l'Église, ne plaît pas forcément d'un seul paquet à tout le monde.
France Inter, le 18-20 spécial conclave en direct du Vatican.
Avec Anne-Laure qui nous attend. Bonsoir Anne-Laure.
Oui, bonsoir Fabienne.
On vous écoute Anne-Laure.
Une question sans doute un peu bête et prématurée, mais je me demandais à quand une papesse.
Vous n'y allez pas par quatre chemins, Anne-Laure, et puisqu'il y a beaucoup de questions sur les femmes, Lou Bémont-Senneville, il y en a même cette question de Thomas, je la rajoute par-dessus, qui dit, peut-on imaginer les femmes cardinales voter lors d'un conclave, sans leur donner le droit d'être élues, parce que je sais que pour beaucoup ça irait trop loin, mais au moins leur donner le droit de vote. Ce que je trouve intéressant, c'est que nos auditeurs, ils veulent aller tellement plus loin que les mini-ouvertures qu'on a pu entendre et voir lors de ce dernier pontificat.
Alors, à quoi une papesse, je ne sais pas, mais en tout cas, la question des femmes cardinales, c'est une vraie question qui s'est aussi posée dans l'Église catholique, qui s'est posée dès Jean-Paul II, où il y a eu toute une controverse, tout un débat sur est-ce qu'on pourrait créer, par exemple, Mère Teresa, cardinale. Et donc, c'est un débat qui revient régulièrement, il est aussi revenu sous François. Il y a tout un débat de juristes pour savoir si il est vraiment interdit à une femme d'être créé cardinal, mais voilà, l'existence même de ce débat existe au sein de l'Église catholique et y compris ces dernières années. À quand une papesse? On va laisser Antoine-Marie Zohar.
Il vient de lever le doigt, donc allez-y Antoine-Marie Zohar.
Non, pas du tout sur la papesse, parce que j'y crois pas beaucoup, et puis le pape François lui-même a dit sous mon pontificat pas de femme prêtre, enfin il était très clair là-dessus, et je pense que une fois de plus l'enseignement de l'Église fait que c'est pas le cas aujourd'hui, il y a une tradition. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui a manqué dans ce conclave, je pense aujourd'hui en 2025, et qui était peut-être que les congrégations générales, et là peut-être qu'il y a quelque chose qui se fera un jour, peut-être que là un pape
ouvrir le aux femmes, les congrégations
ouvrir les congrégations. Alors la question, c'est qu'il faut qu'ils y travaillent sérieusement, savoir qui, comment, mais pas que les femmes, les laïcs tout court, c'est-à-dire les laïcs, des gens qui sont engagés dans la vie de l'Église et qui savent un peu plus ou autant au moins que les cardinaux quels sont les grands défis de l'Église aujourd'hui.
Mais du coup, vous l'imaginez comment? Ça veut dire, s'adresser aux cardinaux en leur disant voilà ce que nous, nous attendons.
Si c'est 200 hommes ou 230 qui sont réunis pendant plusieurs jours, puisque vous vous souvenez que les cardinaux non électeurs étaient là aussi, les plus de 80 ans, à ces congrégations, pendant 8 à 9 à 10 jours pour discuter, échanger, de façon un peu formelle, chacun prenait la parole, normalement 5 minutes, parfois 15. Certains disaient c'est très très long. Eh bien, on aurait pu imaginer que des représentants des épiscopats, que des représentants laïcs, hommes et femmes, puissent être appelés à intervenir, à dire ce qu'ils pensent aussi de ce que l'Église, de ce à quoi l'Église doit répondre demain. Et ça, forcément, ils ne rentreront peut-être pas en conclave demain ou dans les décennies à venir. En revanche, ça, je pense que c'est une petite révolution. Le pape François y a déjà contribué à sa façon, en ouvrant ce qu'on appelle le synode des évêques, qui est vraiment un lieu d'échange, à, je ne dis pas de nombreux laïcs, mais à quand même un certain nombre de laïcs, hommes et femmes, des religieux, des religieuses, des laïcs tout court, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'engagement, de consécration religieuse ou sacerdotale.
Giovanni Maria Vianne, je vous ai vu réagir à ce que disait Antoine Marizo.
C'est absolument clair, et c'est l'essence de la tribune dans le monde de Madame Lucetta Scarafia. Très percutante, très claire.
Qui est ?
Madame Scarafia a fondé les mensuels féminins de l'Osservatore Romano et a écrit aussi un polar sur le Vatican, La femme cardinale. Je raconte pas parce que c'est passionnant.
Ah ben non, nous racontons surtout pas la fin.
C'est un polar, mais c'est un enjeu très possible et franchement. Ça a manqué. Mais ce sont les contradictions du pontificat. Je reviens sur la géopolitique. La géopolitique, il faut remarquer que le pape François a mis de côté la secrétaire d'État. La vidée des pouvoirs, la vidée d'argent.
Donc ça veut dire qu'il a, c'est ce qu'on disait en première heure, il a en quelque sorte gouverné par ordonnance tout seul.
Tout seul et avec sa culture, sa personnalité, ses préjugés. La question de l'agression russe à l'Ukraine, c'est absolument clair. C'est évident qu'il avait la même position que du président brésilien.
Donc c'est une position
L'OTAN
du Sud.
L'OTAN, quelqu'un m'a dit que l'OTAN a aboyé au bord de la...
Ça veut dire qu'il réfléchit en homme du Sud, il ne réfléchit pas en pape, c'est ça que vous dites, Giovanni Maria Vianne.
Oui, un pape venu du Sud du monde. Mais je me rappelle qu'à son élection, on m'avait interviewé et j'avais rappelé que, justement, comme vous disiez, Jean-Paul II avait contribué, pas à faire tomber lui, mais a contribué à faire tomber les murs entre Est et Ouest. Et on pouvait espérer d'un pape venu du Sud du monde qu'il faisait tomber les murs entre
Nord et Sud. Et au contraire, et vous diriez qu'il l'a bâti, peut-être un mur entre Nord et Sud
Bâti, non, mais il n'a rien fait.
Est-ce que ça disqualifie un nouveau pape venu du Sud, Loubet Mont-Senneville, ou pas ?
Je ne sais pas si ça le disqualifie, parce que 70% des catholiques aujourd'hui sont dans le grand sud du monde. Ce qui est sûr, c'est que le pape François, ça a quand même été le pape du basculement de l'Église catholique au sud, avec une forme de prise de conscience que non seulement démographiquement, elle est au sud, mais aussi sa manière de penser, ses théologiens. Il y a aujourd'hui, par exemple, vous prenez à la Grégorienne, qui sont les lieux où on étudie la Bible à Rome, et bien aujourd'hui les profs d'araméen par exemple, ce ne sont plus des occidentaux, c'est des japonais, des coréens. Vous voyez, donc il y a un basculement qui est en train de se faire. Tous les gens qui aujourd'hui dirigent les grandes congrégations religieuses, les dominicains, les jésuites et d'autres, viennent de l'hémisphère sud. Donc ce basculement est en train de se faire. Je ne sais pas si ce sera un pape du Sud. Ce qui est sûr, c'est que le pape qui va sortir de la chapelle Sixtine, là, il devra prendre au sérieux les voix venues du Sud et ces catholiques qui habitent dans le Sud du monde.
Est-ce qu'on se trompe, Antoine-Marie Izoard, quand on raisonne de l'extérieur, au fond, en zone, en se disant, effectivement, il y a eu beaucoup de papes européens, il y a eu, italien évidemment, européen, il y a eu la période allemande et polonaise, il y a une période Amérique du Sud, donc c'est le tour de l'Asie ou c'est le tour de l'Afrique. Est-ce que c'est une pensée qui ne marche pas avec ce qui est en train de se passer là dans la chapelle
Sixtine ? Ça ne marche pas trop. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui, en ce moment même, dans la chapelle Sixtine, beaucoup plus d'hommes venus du reste de la planète que d'Europe, même si l'Europe a un poids quand même assez, assez important, et que forcément, ça, ça compte. Mais je ne suis pas certain, et les cardinaux n'ont eu de cesse de nous le rappeler, on ne choisira pas un cardinal parce qu'il vient de telle ou telle partie du monde. On le choisira parce qu'il reste un pasteur, comme on l'a dit un petit peu au début de cette émission, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de garder cette impulsion de Bergoglio, mais peut-être quelqu'un qui va essayer d'apaiser aussi un petit peu la curie, les clivages au sein de l'Église, parce que Bergoglio était un homme paix à son âme, mais assez rude parfois dans la curie romaine. Je pense que notre ami Giovanni Maria Vianne peut en témoigner un peu. C'était difficile ici dans les bureaux de la curie. Oui. Mais voilà, il a écopé d'une curie romaine que Benoît XVI avait essayé déjà de tempérer, que Jean-Paul II n'avait pas complètement réussi à gouverner non plus. Donc là, il y a aussi un travail à faire sur la curie. La curie reste. Et alors là, avec beaucoup de respect pour nos amis italiens, mais la curie reste encore un appareil très, très italien. Et elle aussi, peut-être, a besoin de plus de d'hommes et de femmes, et d'ailleurs de laïcs, qui puissent venir du reste du monde.
Un appareil, comme vous dites.
Et c'est pas de France, hein, pas d'Allemagne ou pas d'Irlande, mais vraiment du reste du monde.
Allez, je voudrais qu'on écoute Alain. Vous pourrez répondre, Giovanni Maria Vianne. Alain est avec nous. Bonsoir, Alain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Alain.
Oui, voilà, j'ai vu un article sur Géo concernant l'Opus Dei. Pour moi, l'Opus Dei a encore beaucoup d'influence au Vatican. J'aurais voulu savoir ce qu'en pensaient vos intervenants.
Est-ce que l'Opus Dei a toujours une très grande influence au Vatican? Qui veut répondre, Giovanni Maria Vianne, vous l'historien?
Ils ont été très contrés, je ne sais pas si on dit...
On a compris, bah ouais.
Contrés par le pape François, et il a bien fait, je pense. Mais il faut reconnaître quand même que l'Opus Dei représente une réalité importante du point de vue culturel, économique, qui, justement, a basculé du nord au sud. Mm. Il y en a beaucoup qui sont en Afrique, en Amérique, etc. Mais pour revenir à la question de la curie, la thèse de mon livre que vous avez gentiment rappelée, c'est que les trois derniers pontificats non italiens, du point de vue du gouvernement, ont été une faillite. Mais pourquoi? Parce que les Italiens n'ont pas aidé les trois pontifes. Et le deuxième, Ratzinger, a été trahi lâchement.
Ça veut dire que les Italiens, Loubet-Mont-Senneville, n'aiment pas qu'on leur prenne ce dont ils ont le sentiment que c'est à eux, en fait. Est-ce qu'on le dit comme ça?
En tout cas, c'est encore une machine très italienne. Exactement. C'est-à-dire que ce qui est fascinant au Vatican, c'est que c'est une machine qui a aussi pétri de culture, d'histoire italienne. La langue de travail, c'est l'italien. Et vous savez, la langue, c'est pas seulement une langue, c'est aussi une culture. La conception du temps est italienne. Moi, on m'a jamais... par exemple, quand vous prenez rendez-vous avec quelqu'un à la curie, quand vous êtes journaliste, c'est très frustrant. Quand vous prenez rendez-vous avec la curie et quand vous êtes journaliste, son agenda ne va jamais au-delà d'une semaine. C'est-à-dire que s'il n'est pas disponible dans la semaine, il me dit « rappelez-moi la semaine prochaine ». Donc ça, c'est vraiment très italien. C'est-à-dire qu'en même temps, tout le monde est disponible tout de suite, mais c'est impossible de prévoir à plus d'une semaine. Donc il y a une culture, c'est un exemple qui fait sourire, mais il y a une culture italienne qui est très profondément enracinée ici. Et c'est aussi ça l'enjeu de l'internationalisation de la curie.
Mais quand on dit qu'il faut redonner du pouvoir à la curie, Antoine-Marie Zoar, est-ce que ça veut dire, donc en sous-texte, redonner du pouvoir aux Italiens dans ce Vatican dans lequel nous sommes? Et surtout, tel que je vous entends, on se dit que François a bien fait de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, donc il faut de toute façon surtout pas revenir telle qu'elle était finalement avant lui, non ?
Il faut surtout, au-delà de la curie, il faut surtout continuer à donner de la visibilité, du pouvoir et une marge de manœuvre aux épiscopats nationaux et internationaux. C'est-à-dire que François n'a eu de cesse de dire « Bon, bah, écoutez, vous êtes évêque, vous êtes responsable dans votre propre territoire. » Et en fait, par beaucoup de textes, des motu proprio, des comptes, il a finalement fait complètement le contraire sur un certain nombre de textes. Je reviens quand même à la question de l'Opus Dei, mais un peu à l'envers, en disant que finalement, et je suis complètement d'accord avec ce que dit Giovanni Giovanni Maria Vianne sur la présence aujourd'hui de l'Opus Dei qui est assez minime, en tout cas au niveau de la curie, de l'influence qui a été écrasée par François.
Ouais.
Mais en revanche, le pape François, et c'est intéressant, a donné beaucoup de place, ne serait-ce que par son élection, aux congrégations religieuses anciennes. Combien il a nommé de franciscains, alors de jésuites, n'en parlons pas, mais ça, certains diront que c'est du népotisme, pas du tout, mais combien il a nommé de religieux, de carmes, et d'ailleurs, dans les papabilés dont on parle un petit peu et dont parlent les médias ces jours-ci, il y a énormément de religieux et de religieux de congrégations anciennes. Parce qu'il faut reconnaître aussi que les communautés plus nouvelles, post-Vatican II, ont failli aussi par un certain nombre d'abus et que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les communautés de tradition, les communautés séculaires, n'ont pas encore été trop atteintes, peut-être parce qu'elles sont plus fortes et qu'elles arrivent à contenir ces questions-là.
On est en train d'approcher 20h et on regarde tous l'écran sur lequel la cheminée est en gros plan. Ici, on voit bien que la chapelle, la place Saint-Pierre s'est remplie. Au-dessus de nous, il y a encore des balcons et on voit que les gens se sont mis effectivement sur le bord pour apercevoir de là où sont ceux que je vois ici sur ma gauche. On voit bien qu'ils doivent avoir une vue, une très jolie vue sur la cheminée. Pas forcément. Ah oui, alors les journalistes, mais pas forcément, pas seulement. En fait, c'est vers vous que j'ai envie de me tourner, Bruno Duvic. Vous êtes du haut de votre perchoir sur les positions commentateurs du Vatican. Et vous la voyez, cette foule qui grossit et peut-être une petite impatience qui monte, même si l'issue du vote, on la connaît, mais c'est le premier jour.
Dites-moi, ça fait 2h15 qu'on attend et qu'on regarde les mouettes qui se posent le toit de la Sixtine à 100 mètres de nous. En tout cas, la foule, ça augmente tranquillement. La place est vraiment quasi pleine. Il y a l'espace médian qui est laissé libre pour des raisons de sécurité où des gamins jouent au foot, parce qu'on reste en Italie tout à l'heure. Ouais. Et en tout cas, il y a cette attente sereine avec le soleil qui est tombé, cette lumière douce de Rome, une attente, une impatience et cet événement, on parle de déchristianisation en tout cas de l'Occident, qui suscite toujours autant d'attente et de curiosité à Rome.
Est-ce que c'est de la... Merci beaucoup, Bruno. C'est de la curiosité, Antoine-Marie Izoard, qui est en bas de chez nous, aujourd'hui, premier jour, à votre avis ? Puisque je suis à Rome, j'en profite, parce que quand même, je ne répète pas ça deux fois dans ma vie, ou est-ce que ça dit autre chose ?
C'est difficile d'être dans le cœur des gens, mais je pense qu'il y a des gens qui attendent avec impatience de voir ce qui se passe.
J'ai
le privilège d'avoir vécu, peut-être pas autant que mon confrère à côté ici à droite, italien, mais j'ai eu le privilège de vivre, c'est mon troisième conclave, et il y a toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Non, ça nous dit ce soir, cette longue attente, que les cardinaux sont très nombreux dans la chapelle Sixtine, beaucoup plus que jamais dans l'histoire, et donc au moins déjà 15 ou 20 de plus que lors des deux précédents conclaves avec 133 votants et que c'est forcément un peu plus long et il va falloir être patient même les jours qui viennent parce que
vous savez
qu'il y a deux votes. Il y a deux votes demain matin, deux votes demain après-midi puis ainsi de suite selon...
Parce qu'en général on sait à peu près, on va dire que il y a donc les deux votes du matin, donc on sait qu'il y a une fumée potentielle
si le premier tour est un succès entre guillemets, si le pape est élu au premier tour, la fumée arrive dès que possible.
Certes,
mais effectivement ça risque de tarder un peu par rapport aux années précédentes et on se couchera peut-être un peu plus tard, mais c'est extrêmement intéressant de voir quand même cette foule qui est là qui effectivement, vous l'avez dit, qui grandit à vue d'œil.
Puisque je vous tiens, il ne nous reste qu'un seconde, on a des questions qui viennent sur la prophétie Saint-Malachie et pour mettre nos auditeurs dans le secret, on en a parlé quand on était tout à l'heure à l'extérieur, le fameux dernier pape et ensuite c'est la fin du monde. C'est ce que je voulais vous entendre
dire. Écoutez, avec un peu d'espérance, il y aura un prochain pape d'ici un ou deux jours.
Écoutez, vous serez là dans un ou deux jours pour nous en parler de ce prochain pape. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous pour vos très nombreux appels. Je ne pars pas, même si on est un peu en retard, sans remercier Pierre de Certaines à la programmation, Philippe Lefebvre, le rédacteur en chef, Julien Girard. J'entends des applaudissements. Est-ce que ça veut dire que peut-être, puisqu'il est quasiment l'heure pleine, on ne la voit pas, nous, pour l'instant, la fumée noire. Ce sera le sketch pendant longtemps. Hein. Est-ce que vous la voyez ? Est-ce que vous la voyez pas ? Moi, non. Allez, Julien Girard à la technique. Benoît Jégou, c'est le chargé de production à Paris. Il y a Thomas Langlin. Il y a Aurore Mansip. À demain, les amis, on sera là pour vous raconter la suite depuis cette même terrasse du Palazzo Migliori, qui est magnifique, devant la place Saint-Pierre. Ah, on la laisse, hein. La cheminée, il est 20h. Pas tout à fait. Pub, peut-être.